Studio Tamani, voici nos informations en français.
Il est 8h à Aljana Banja, un quartier de Gao, et même heure sur l'ensemble de nos radios partenaires. Auditeurs, auditrices, bonjour et merci de votre constante fidélité au programme de Studio Tamani. Voici les titres de cette édition matinale. Qu'en est-il du retrait de la force Barkhane du Mali? Selon un responsable militaire de la force, le retrait se fait progressivement. Actuellement, c'est la base de Gossi qui est concernée par le processus de désengagement. Le gouvernement et les groupes armés sont à Gao pour discuter autour de l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation. Il a été décidé au cours de la rencontre de l'intégration de la partie gouvernementale au sein du cadre stratégique permanent de réconciliation, un organe qui rassemblait les groupes armés signataires de l'accord pour la paix. Flambée des prix des denrées alimentaires sur les marchés. À plus de 2 semaines du Ramadan, la cherté des produits inquiète les clients. Le 50 kg du sucre est cédé entre 24 000 et 27 000 francs CFA. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à la présentation. Mariam Maïga, Mamadi Keïta assure la technique. Le processus de désengagement de la force Barkhane au Mali se poursuit progressivement, selon un responsable de la force française. Ce retrait doit se faire sur 6 mois. Il est à ce jour effectif à 15%, selon le chef de l'opération Barkhane au Mali. Quant au redéploiement de la force au Niger, rien n'est encore fait, ajoute-t-il. Le point avec Arkia Touré.
C'est la base de Gossi qui est actuellement concernée par le processus de désengagement. Selon le général français Etienne Dupérou, chef de l'opération Barkhane au Mali, quelques matériels et d'autres éléments techniques ont déjà commencé à être retirés du camp. Il affirme aussi que ces opérations nécessitent des actions militaires sur le terrain.
Oui, Barkhane continue d'opérer au Mali. Effectivement, quand on a la capacité de frapper les groupes terroristes, quand on en a l'opportunité. Et ensuite, dans le cadre de nos opérations de des engagements. Nous avons aussi besoin d'assurer notre propre sécurité avec nos avions, nos hélicoptères, au-dessus de nos convois.
Les chefs de l'opération Barkhane au Mali indiquent également que la coordination avec les forces armées maliennes se poursuit sous différentes formes.
En fait, on continue de se coordonner. On est en mesure d'intervenir au profit des FAMAS si nous le demandent. On s'arrange pour savoir ce que font les uns et les autres et si on est en capacité de continuer à les appeler. Effectivement, de l'appui aérien, on échange aussi du renseignement. On peut éventuellement être amené, si cela nous est demandé, à procéder à des évacuations sanitaires.
Concernant le redéploiement de la force Barkhane au Niger, le représentant du Barkhane estime que cette étape est soumise à la réflexion.
On ne peut pas vraiment parler de redéploiement au Niger. Et en fait, on ne va pas ses capacités au Niger. On va réfléchir avec les Nigériens, les Burkinabés, les membres du G5, à ce qu'ils souhaitent que l'on fasse avec eux. Et en fonction de ce qu'ils souhaitent, on verra.
Avec les attaques qui se déroulent à la frontière Mali-Niger, Barkhane n'entend pas intervenir, sauf sur demande des autorités nigériennes, explique le général Etienne du Pérou.
Un sujet signé Arkia Touré. Contactée par la rédaction, la direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA n'a pas souhaité réagir sur ce sujet. Rejoignez la communauté Studio Tamani en commentant et partageant nos informations sur notre page Facebook ou encore sur Twitter. Autre titre, le cadre stratégique permanent CSP devient le cadre stratégique permanent pour la réconciliation CSPR. Ainsi ont convenu les mouvements de la plateforme et de la CMA ainsi que le gouvernement. Les délégations de ces 3 parties signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation se sont rencontrées hier à Gao. Elles ne se sont pas entendues en revanche sur certains nombres de points relatifs à ce nouveau cadre. Écoutons Ismaël Ouagé, ministre de la réconciliation nationale, au micro de notre correspondante à Gao, Hadizatou Maïga.
Il n'y a pas de point d'achoppement en tant que tel. Le point de désaccord, c'est justement le leadership de ce cadre-là, où clairement le gouvernement, comme convenu, entend prendre la tête de ce nouveau cadre-là. Donc c'est un point sur lequel on ne va pas revenir. Maintenant, on va donner le temps au mouvement de réfléchir à cette question et de se prononcer pour qu'on puisse avancer ou pas dans le processus concernant ce nouveau cadre. La problématique au niveau du CSP ou du CSPR, comme on veut l'appeler, elle est tout simplement due au fait que l'État attend jouer un rôle dans toute structure qui est mise en place, qui va dans le cadre du développement, de la paix et qui prend en compte des aspects sécuritaires. Donc, il est impensable que l'État soit en marge d'une structure où on traite des questions essentielles de souveraineté de l'État.
À la fin de la rencontre, les groupes armés n'ont pas fait de déclaration. Nous y reviendrons dans notre édition d'histoire. Parlons de sécurité, plusieurs terroristes neutralisés à Menaka, 15 autres dans les régions de Ségou, Mopti et Sikasso et des matériels récupérés par l'armée malienne, a annoncé l'état-major des armées dans un communiqué. Ces offensives menées du 8 au 15 mars dernier ont permis de protéger les populations et leurs biens, ajoute le document. Cependant, ces opérations se déroulent alors que les attaques terroristes continuent de faire des victimes civiles dans la région de Menaka. Les détails avec Moussa Malissé-Seko.
Dans un communiqué, le chef général des armées indique que les FAMA ont mené des opérations aéroterrestres le 13 mars 2022 dans la région de Menaka. Ces frappes aériennes ont permis de briser l'élan des terroristes à Menaka, Andirabukan, Inchinanen, Harodi, Infukaretan, Inaraban, Tambakort et Tamalet. Ces opérations ont infligé de nombreuses pertes dans les rangs des terroristes. Dans la région de Ségou, au centre du Mali, les FAMA ont neutralisé un terroriste et récupéré un PM et détruit 5 sacs d'engrais. C'était du 8 au 15 mars 2022 dans la localité de Djabali, précisément à Bekayouré. À Boni, région de Douanza, une patrouille de l'armée tombée dans une embuscade dans la forêt de Serma a tué 12 terroristes. Elle a pu récupérer des pick-up, des mitrailleuses 12-7 et des PM de l'ennemi. À Sikasso, au sud du pays, l'armée malienne a neutralisé un terroriste et récupéré une arme et une moto à Tandjo. Au même moment, une patrouille de l'opération Kelétigui affirme avoir tué 2 terroristes et récupéré des armes et des téléphones à Gumbu, région de Nara.
Sur le même sujet, le collectif pour la défense des militaires rejette les allégations dans lesquelles l'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch accuse les forces armées maliennes d'exactions. Pour les responsables du collectif, ces accusations ne sont que des manipulations dont le but est de démoraliser et affaiblir l'élan des forces armées maliennes sur les théâtres des opérations. Mahamad Oumar Dambélé, membre de la cellule de communication du collectif, était l'un des invité de notre émission Le Grand Dialogue du mardi dernier. Nous l'écoutons.
Dans un passage, je lis également qu'il y a eu même un diplomate qui a été interviewé par rapport à ça. Donc je me demande comment est-ce qu'un diplomate peut se rendre sur le lieu pour enquêter sur des éventuelles exactions contre des civils par l'armée malienne. Donc pour nous, jusqu'au appel de contrôle au niveau du collectif pour la défense des militaires, ça c'est un fait divers. C'est un dossier déjà classé parce que ça rentre pour nous dans le cadre de la distraction, de la propagande, de l'intoxication, de la désinformation, une façon encore de politiser la chose en question. Chaque fois que l'armée malienne montre un peu les muscles, on voit qu'en réalité il y a un document qui sort sous prétexte qu'il y a exactement. Il y a ici, il y a ici, là. Actuellement, moi, je vous parle, nous avons une mission sur le terrain avec aussi des huissiers pour voir de visu qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc, en réalité, des enquêtes sinon à partir des lignes téléphoniques, mais moi, je peux me permettre d'appeler quelqu'un à partir de votre studio ici. Est-ce que cela veut dire que c'est des informations fiables? Il faut aller sur le terrain.
Autre titre de l'actualité du jour, les propositions pour le changement telles qu'exprimées lors des différentes étapes des Assises nationales de la Refondation ne seront pas jetées dans les oubliettes. Cette déclaration est du ministre de la Refondation chargé des relations avec les institutions. C'était mardi à l'ouverture de l'atelier de validation de l'avant-projet du cadre stratégique de la Refondation de l'État. Cette rencontre de 3 jours vise à valider le cadre stratégique de la Refondation de l'État et son plan d'action. Mahamane Babakunta.
Cette rencontre est un cadre d'échange sur les propositions faites par les Maliens, affirment des responsables du ministère de la Refondation. Pour le commissaire au développement institutionnel Ahmed Mohamed Yahia, les documents de base s'articulent autour de 5 axes stratégiques.
Un avant-projet de cadre stratégique de Refondation a été élaboré par le ministère en charge de la Refondation de l'État avec un plan d'action quinquennal de 2022 à 2031. Donc il s'agit de voir comment mettre en œuvre ces recommandations et partager cet avant-projet de cadre stratégique et son plan d'action avec les différents acteurs.
Pour les représentants des services publics et privés présents à la rencontre, l'adoption de ce projet permettra la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la Refondation. Dr Kadigatou Boiré, conseiller technique au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.
Après les Assises, on attend vraiment la concrétisation de tout ce qui a été dit et tout ce qui a été proposé comme plan d'action. Donc je crois que c'est le lieu vraiment de voir ces différentes actions réalisées à travers le plan stratégique. stratégique.
Pour le ministre de la Refondation de l'État, Ibrahim Ikassa Maïga, cet atelier revêt une importance capitale pour son département. Il estime que le document, une fois validé, sera très prochainement introduit dans le circuit pour son adoption.
Parlons à présent de l'arrestation d'Etienne Fakaba Sissoko. Le tribunal de grande instance de la commune 4 du district de Bamako a repoussé au 22 mars 2022 sa demande de liberté provisoire. L'économiste est détenu en prison centrale d'arrêt de Bamako depuis le mois de janvier dernier. Il est poursuivi par la justice dans deux affaires. La première concerne des propos encourageant la discrimination ethnique ou religieuse et la deuxième concerne un diplôme universitaire qu'il est soupçonné d'avoir falsifié. Maître Ibrahim Marouf Sako est l'un des avocats d'Etienne Fakaba Sissoko. Il est joint par Ousmane Nyalibouli.
Le juge n'est pas obligé de rendre sa décision sur le champ. Quand tu fais une demande à un juge, il a parfaitement le droit de remettre sa décision à une ou deux semaines pour aller étudier le dossier au fond et pouvoir prendre dans le secret de son cabinet sa décision. Donc nous ne voyons pas d'inconvénient. Cela n'est pas quelque chose d'anormal. Ça, c'est le fonctionnement normal des tribunaux. Le présumé innocent, il n'a pas été jugé. Donc il n'est coupable de rien. Il est simplement poursuivi. On lui reproche simplement des propos. C'est ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Donc, un innocent, sa place est dehors, c'est pas dans la prison. Donc, c'est pourquoi nous pensons que le juge va accéder à notre demande. Ça, c'est la première chose qui peut arriver. La deuxième chose qui peut arriver, c'est que le juge peut rejeter notre demande. S'il rejette notre demande, on a le droit de faire appel. On va faire monter le dossier à la cour d'appel où le droit sera dit.
Faisons un tour dans les marchés. À deux semaines du début du Ramadan, les prix des principales denrées alimentaires ont déjà pris l'ascenseur sur le marché. Le sac de 50 kg du riz est cédé entre 17 500 francs CFA et 19 500 francs CFA. Celui du sucre entre 24 000 et 27 000 francs CFA. Le bidon de l'huile de 20 litres est cédé entre 20 000 et 23 000 francs CFA, entre autres. Et pourtant, les produits alimentaires ne sont pas concernés par l'embargo imposé au pays depuis deux mois. Les clients demandent aux commerçants de baisser les prix alors que ces derniers appellent les autorités à s'assumer. Les détails avec Mamadou Samasekou qui a fait le tour de certains marchés de Bamako.
On est ici dans la boutique de Mamadou Nyangadou, un commerçant d'Emigroussis à Lafiabougou en commune 4 du district. Sur place, des clients s'inquiètent de l'allure que prennent les prix des denrées alimentaires.
Il y a eu augmentation. Les kilos de sucre étaient cédés à 500 francs CFA. Je pense en cette veille de Ramadan, on doit baisser les prix.
Nous qui survivons en essayant de prendre en charge nos familles, récoltons les conséquences. Même si le kilo est cédé à 1000 francs, il y a des gens qui vont acheter sans problème. Je souhaite avoir ça à 400 francs CFA.
525 francs CFA le kilo, c'est vraiment cher.
Loin de là, un autre commerçant confirme que malgré la non prise en compte de ces produits dans l'embargo, la hausse de leur prix se fait sentir.
Le sac de 50 kg de sucre est à 26 500. On le détaille à 550 francs. Le lait aussi a augmenté. Il était cédé à 2300. Actuellement, c'est 2500. Le litre de l'huile importée est à 1200 francs. L'huile locale est cédée à 1100 francs. Si les denrées ne font pas partie des sanctions, que les autorités s'assument. En cette veille de Ramadan, il ne font qu'augmenter les prix. Je reconnais qu'en partie, c'est la faute de nous les commerçants. On doit commencer le contrôle au niveau des grossistes.
Les clients appellent les autorités à prendre des dispositions pour que les prix puissent baisser avant le Ramadan. Rappelons que la Direction générale du commerce, de la concurrence et de la consommation a entamé des opérations de contrôle des prix suite aux sanctions de la CEDEAO. Des consommateurs s'interrogent sur l'efficacité de ces mesures.
Parlons à présent de la revue annuelle conjointe 2020-2024 du programme Pays du programme des Nations Unies pour le développement PNUD qui s'est ouverte mercredi à Bamako. Durant deux jours, le PNUD et ses partenaires vont échanger sur les progrès déjà réalisés et mener des réflexions autour des plans de travail annuels, mais aussi des projets en cours d'exécution. Joe Schauer est le représentant résident Pays du PNUD Mali. Il est au micro de Hamset Touré.
C'est toujours important de passer en revue ce qu'on a fait et apprécier ce qu'on a pu réaliser avec nos partenaires. Le Mali dans un contexte, on le sait tous, complexe. Au début de notre nouveau programme pays, on ne parlait pas encore de la pandémie Covid-19. On se trouve actuellement dans une transition politique. Donc c'est important qu'on se mette ensemble avec nos partenaires du gouvernement, les autres partenaires techniques et financiers, la société civile, faire disons un état des lieux, des résultats obtenus, mais également de regarder si tout ce qu'on fait est bien planifié, bien pertinent. pertinent, répond au contexte et faire les ajustements pour 2022 et les années à venir là où il faut. Et je pense que les perspectives pour 2022, elles sont bonnes parce que les programmes qu'on a mis en place répondent aux questions clés du pays dans lesquelles le gouvernement aimerait qu'on intervienne.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Commençons notre tour d'actualité régionale par le sud du pays où plus de 50 responsables des services techniques membres de la société civile de Yoroso se sont réunis le 15 mars dernier. Il s'agissait pour les participants de recueillir des informations sur les difficultés des populations dans le cadre du développement. Les participants ont souhaité la création d'un camp militaire et d'un commissariat de police. La rencontre est organisée par la préfecture et le conseil économique, social et culturel. Yoroso cap sur Bafoulabé où un incendie s'est déclenché avant-hier aux environs de 14h à Djakambangu, un hameau de culture Gounfan. Les feux ont consumé notamment 12 cases rondes et des greniers remplis de vivres. Des témoins indiquent que c'est le chef de la famille touché qui aurait oublié d'éteindre le feu. Les sinistrés sollicitent de l'aide auprès des bonnes volontés. Terminons par Koro où un engin explosif improvisé a été désamorcé le 15 mars dernier au niveau de la mare sacrée de Bourgogne. L'engin a été détruit sans incident. Les populations disent craindre le pire. En 15 jours, 5 mines ont été découvertes aux alentours de Koro. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était à la présentation Mariam Maïga. Mamadi Keïta a assuré la technique. Ne décrochez pas car l'info continue.